Et ce matin, nous parlons d'une ouverture qui est très attendue un peu partout en France. C'est l'ouverture de la pêche à la truite. Ce sera ce samedi 8 mars. Retenez vos cannes à pêche encore un petit moment. Ce sera demain, donc. Dewis Davudian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agent de développement au sein de la Fédération de la pêche dans les Hautes-Alpes. La Fédé de pêche, aujourd'hui, vous comptez combien de... Je sais que ça va faire sourire certains, mais combien de sportifs? Parce que ce sont des licenciés. C'est un sport, la pêche.
Tout à fait. On compte au niveau national 1 500 000 pêcheurs et au niveau du département... On compte ça aussi selon les années, selon la météo, selon le niveau des cours d'eau, mais on a aussi entre 15 000 et 17 000 pêcheurs dans le département des Hautes-Alpes.
Donc c'est un sport très pratiqué, vous le disiez, c'est selon la météo, selon les cours d'eau, alors on est dans une bonne année?
Là, tous les voyants sont plus qu'au vert, puisqu'on a, une eau limpide, on a des températures clémentes. Souvent, les freins qui peuvent intervenir pour la pratique de la pêche, c'est des eaux un peu turbides, des niveaux d'eau un peu trop importants. Là, pour l'instant, les eaux sont limpides. La météo est hyper favorable parce qu'on pourrait avoir quelques frileux qui se diraient, ben voilà, là, c'est un peu froid, j'irai que la semaine prochaine quand il fera meilleur. Là, c'est fabuleux pour pouvoir aller au bord des cours d'eau, en famille, entre amis, seul, en couple. On en a de plus en plus, donc tous les voyants sont plus qu'au vert.
Les intempéries de ces dernières années avaient impacté un petit peu la Fédération de la pêche. Vous parliez de la qualité de l'eau, forcément quand on parle d'intempéries, de coulées de boue, ça peut aussi rendre la frilosité un peu plus forte.
Alors, c'est ce qu'on appelle typiquement une crue, et notre département y est sensible. Donc on a eu des crues, et c'est l'occasion en 2024 de faire beaucoup d'études sur les milieux, d'aller essayer d'observer si on retrouve le même nombre de poissons, si on a de la perte. Surtout surveiller nos adous, qui sont des pépites. C'est des exurgences parallèles au cours d'eau principal où les poissons, c'est un style de bunker, où les poissons vont aller en refuge. L'adou coule, même température, même débit toute l'année. Donc dès qu'on a une crue, c'est un superbe refuge pour les poissons. Donc nous, on va observer ces milieux-là. Et c'est vrai qu'effectivement, dans les cours d'eau principaux où il y a eu des crues, on a observé une perte de la quantité de poissons en rapport avec nos années précédentes. Et ce qui était super encourageant, c'est de voir ces adous qui étaient par contre pleins d'alevins, ou les torrents annexes qui alimentent le cours d'eau principal, qui étaient aussi pleins d'alevins. Donc c'est là où c'est très encourageant, et c'est là où notre rôle de fédération et de guetter sur ces milieux est important. C'est que si on a les espèces qui sont présentes sur les têtes de bassin, les milieux, les cours d'eau principaux vont être recolonisés assez rapidement. Généralement, il faut 1 à 2 ans et on retrouve un cours d'eau à l'état initial s'il n'y a pas eu d'intempéries entre-temps. Et là, il n'y a pas eu d'intempéries entre-temps.
Donc c'est en train de se recoloniser. En tout cas, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les crues, elles ont provoqué quand même une atteinte à la biodiversité qui est en train de se pallier au fur et à mesure.
Sur peu de cours d'eau, on a quelques cours d'eau où effectivement c'est arrivé. On a quelques cours d'eau où il y a eu nos inventaires précédents sont similaires à l'année 2024, donc il n'y a pas eu d'impact. Effectivement, il y a des cours d'eau où il y a eu un peu d'impact. On a pu le voir au cours de l'année 2023, sur décembre 2023, janvier 2024 et juin 2024. On a eu des épisodes pluvieux qui sont aussi souvent nécessaires à notre cours d'eau. C'est la mort et la résurrection. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait du nettoyage, ça redonne du gravier, ça redonne des supports de ponte, ça chasse aussi toutes les matières en suspension qui ont pu s'accumuler d'entre les cailloux, qui ont pu créer du colmatage. Donc c'est aussi une force de notre département, c'est la résilience de ces cours d'eau. La crue est souvent nécessaire, donc elle n'est pas toujours satisfaisante pour le pêcheur, mais elle est souvent bénéfique pour le milieu.
Comment vous menez ces inventaires? Parce que je suppose que ce n'est pas parce que vous faites un appel aux poissons qu'ils vont venir se faire recenser. Comment vous les menez sur place?
Alors on a plusieurs méthodes sur un cours d'eau comme chez nous, où on a un peu de débit, un peu de pente et souvent du courant qui pousse le poisson vers le bas. Sur généralement 10 fois la largeur du cours d'eau. Donc si on prend un cours d'eau de 2 mètres, on va faire 10 mètres. On va exercer une pêche électrique, donc on va être nous aussi dans l'électricité et on va engourdir le poisson. Avec le courant, en quelques secondes, on le récupère dans des épuisettes. Et ensuite, il suffit de les compter, les peser et les relâcher dans le milieu, dans leur état initial. Ça, on le réalise généralement sur les mêmes zones. Soit après une crue, soit quand on a besoin de faire un inventaire. Des fois, c'est plutôt après des pollutions aussi. Donc, on va mesurer l'impact de la pollution. Et dans ce cas-là, on capture les poissons, on les pèse, on les mesure et on les compte. Et on peut faire des statistiques par rapport aux années précédentes et mesurer l'impact soit d'une pollution, soit d'une crue, soit toute autre atteinte sur le milieu.
Ça arrive souvent que vous soyez contacté justement pour un risque de pollution suite, par exemple, à un accident non loin d'un cours d'eau, des hydrocarbures qui fuient ou autre.
Ça peut arriver. Après, c'est pas forcément nous que l'on contacte directement, mais c'est aussi le rôle du pêcheur aujourd'hui. Enfin, quand je dis le rôle du pêcheur, c'est quelque chose qui se fait spontanément. Chaque pêcheur a quand même une énorme sensibilité. C'est ce qui relie aussi tous les pêcheurs, la sensibilité au milieu aquatique, à être au bord des cours d'eau. Et c'est aussi, quelque part, une énorme force pour notre réseau, c'est d'être une sentinelle. Quand je suis au bord du cours d'eau et que je pratique mon loisir, encore une fois, que je sois seul, en famille, en couple ou entre amis, j'ai mon regard qui est tourné vers le cours d'eau et je peux constater quelque chose d'anormal dans un endroit où je vais souvent. Je me dis, bah tiens, je viens souvent ici, c'est pas normal, j'ai une odeur bizarre. J'ai de la mousse qui apparaît ici. J'ai constaté qu'il se passe quelque chose qui ne se passait pas avant. J'ai ce rôle de sentinelle en adhérant à une association, en étant un pêcheur. J'ai ce rôle de relais aussi auprès de la fédération ou des services de l'État comme la DDT ou l'OFB pour faire mes remontées, mes observations au bord du cours d'eau. Donc chaque pêcheur est sentinelle aussi.
Vous me disiez, juste avant qu'on prenne l'antenne, il y a un fabuleux indicateur de l'état des cours d'eau, c'est le poisson qu'on appelle le chabot. Alors j'ai tapé rapidement, je vous ai dit, il n'a pas forcément une très jolie tête, mais bon, ça c'est personnel. Mais en tout cas, c'est un poisson, est-ce que vous pourriez le présenter? Parce que vous me disiez, c'est presque un poisson préhistorique.
C'est le chabot commun, et effectivement, quand on le voit, pour les auditeurs qui ne le voient pas, ils peuvent le taper, bien sûr, sur un moteur de recherche pour regarder. Mais ça ressemble énormément au gobie. C'est un poisson que l'on peut retrouver en bord de mer. Ce n'est pas de la famille des gobies, mais c'est le chabot commun. Et c'est vrai que c'est un poisson qui n'est pas du tout recherché par les pêcheurs. Peut-être qu'il s'en capture 2-3 par an par les pêcheurs, parce qu'il ne mord pas forcément aux appâts. Mais par contre, pour nous, Fédération, il a un intérêt plus que patrimonial. Quand on trouve du chabot dans les cours d'eau, c'est peut-être, pour nous, ça peut paraître bizarre, mais c'est un signe de joie pour nous, parce que c'est un très bon bio-indicateur. Il est assez polio-sensible, il a besoin d'une eau fraîche et oxygénée. Donc, dans toutes ces années où on a un peu plus d'atteintes sur le milieu, on a des eaux qui se réchauffent un petit peu, dès qu'on trouve du chabot, pour nous, on est typiquement dans un milieu fabuleux de première catégorie. On sait que le milieu est sain. C'est un bon indicateur de la santé du cours d'eau quand on trouve du chabot. Et beaucoup de pêcheurs ne le connaissent pas, comme beaucoup d'invertébrés ou autres. Mais pour nous, il a une énorme valeur patrimoniale, au même titre que la truite fario commune présente dans nos cours d'eau.
Voilà, donc si vous pêchez du chabot à partir de ce 8 mars, vous saurez que le cours d'eau qui est face à vous est en très bon état. Alors comment ils vont justement ces cours d'eau? On va préciser, la pêche à la truite, c'est une pêche de première catégorie.
Tout à fait.
Donc ça se fait sur les cours d'eau de première catégorie. Combien de kilomètres dans les Hautes-Alpes?
Alors dans les Hautes-Alpes, c'est 1700 kilomètres de cours d'eau de première catégorie.
Ça laisse
une véritable force de notre département. Et on a 300 km de cours d'eau de deuxième catégorie. Et souvent, dans les départements de plaine, c'est plutôt des chiffres qui s'inversent. Chez nous, on a un très fort territoire. C'était d'ailleurs la force de notre territoire. C'est la première catégorie. C'est ces beaux torrents de montagne, ces belles rivières cristallines. Ça, c'est les Hautes-Alpes.
Donc, ouverture de cette pêche à la truite, ce samedi 8 mars, jusqu'à quand?
Alors, ça ferme le premier dimanche d'octobre. Donc là, c'est le coup d'envoi. Honnêtement, on a une météo fabuleuse. Je suis convaincu que les gens vont trouver une belle rivière où aller promener. Et même si des fois la canne est juste un prétexte, mais c'est un bon moment pour se relaxer et passer un bon moment au bord d'un cours d'eau. Ce samedi devrait être fabuleux pour découvrir la pêche, se remettre à la pêche, ou simplement pour tous les impatients qui sont dans les starting blocks.
Est-ce qu'il y a des règles à suivre?
Oui. Alors, pour pouvoir pêcher dans le département des Hautes-Alpes, il faut avoir une carte de pêche que l'on peut retrouver sur le site internet cartedepêche.fr ou chez un des nombreux dépositaires du département. Mais on a aussi une réglementation qui impose, par exemple, de ne pas capturer plus de 6 salmonidés par jour et par pêcheur. Et aussi, les salmonidés doivent mesurer au minimum 20 cm pour pouvoir être capturés. Cette taille de capture, c'est aussi l'idée de se dire que dans notre département, au-delà de 20 cm, elles se sont déjà reproduites. Et en dessous, on estime qu'elles ne se sont pas encore reproduites. Donc, il est impératif de relâcher les poissons en dessous même si aujourd'hui les pêcheurs relâchent une grande partie de leurs poissons et gardent le nécessaire s'ils le souhaitent pour...
Oui, parce que j'allais dire, vous faites appel à la conscience personnelle, parce que vous n'êtes pas toujours derrière chaque pêcheur, derrière son dos, pour dire attention, celui-là, il faut le relâcher ou autre.
Non, on n'est pas toujours, on a quand même des gardes particuliers. Mmh. On a aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est encore une fois une très très grosse force, c'est qu'on a souvent aussi d'autres pêcheurs qui surveillent au bord des cours d'eau, et la réglementation se suit bien. On rencontre pas énormément de problèmes dans notre département là-dessus.
Merci beaucoup, Dewis Davidian, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, l'ouverture de la pêche à la truite, c'est ce samedi 8 mars.